milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, vous avez la parole à l'occasion de la Journée internationale des filles. Une fille sur cinq est privée d'éducation dans le monde. En Afrique subsaharienne, pour 100 garçons qui ne vont pas à l'école, on compte 123 filles. Or, une année de scolarité de plus pour une fille, c'est 10 à 20% de salaire en plus à l'âge adulte, selon la Banque mondiale. Alors comment améliorer l'accès à l'éducation des filles? On va en parler avec l'ONG Plan International qui est à l'origine de cette journée. Bonjour Michel Perrault.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice plaidoyer et engagement des jeunes de l'antenne française de l'ONG Plan International. Et votre principal relais sur le terrain, dans le monde, beaucoup en Afrique, ce sont les jeunes. Et d'ailleurs, vous êtes venue aujourd'hui avec des jeunes. Bonjour Kadiatou.
Bonjour.
Vous avez 17 ans, en Guinée-Conakry, lycéenne, secrétaire générale, cofondatrice des jeunes filles, leader de Guinée. C'est comme ça qu'il faut vous présenter?
Oui, et défenseuse des droits de la jeune fille, plus précisément de l'éducation, et briseuse de mariage d'enfant.
C'est ça, c'est ça. Votre titre, briseuse de mariage d'enfant. Vous annoncez la couleur d'emblée, hein. C'est au moins pas de doute. Ibrahima Sori, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes militant guinéen pour les droits des filles. Vous êtes étudiant d'ailleurs. Hein,
oui.
À l'université. À
Général Lansana Conté.
D'accord. En droit. Hein.
Sciences politiques.
Et nous entendrons également à Ouagadougou, au Burkina, Bernard Zongo du Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier. Dans un pays, le Burkina Faso, les filles sont encore clairement discriminées par rapport aux garçons. Et quant à vous, les voisines et les voisins, dites-nous d'abord quel est votre constat dans votre pays. Je pose la question en particulier aux jeunes garçons. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire à l'heure actuelle pour en finir avec les injustices qui touchent vos sœurs, vos cousines ou vos petites amies? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Je vous lis quelques messages postés sur Facebook. Barry, qui est enseignant de français et d'arabe dans une école à Télimélé, en Guinée, à 200 km de Conakry. Hein, c'est ça, Kadiatou. Mm-hmm. Beaucoup de filles, nous dit Barry, ici ne vont pas à l'école. La société doit se réveiller. L'État doit contrôler leur scolarisation. Moi, personnellement, j'encourage beaucoup, nous dit Barry, les filles en classe. Je viens de me marier avec une femme qui n'est jamais allée à l'école. J'ai acheté des livres, je lui apprends à lire, à parler le français. Et elle apprend aussi l'arabe avec les cours d'éducation religieuse. C'est important pour vous? Vous avez l'impression aujourd'hui, les enseignants, ils sont en train de changer d'approche par rapport à ce problème ou pas? Kadiatou.
Au niveau du problème de l'éducation, ça commence vraiment à changer parce qu'il fait un temps où dans le pays, même les enseignants avaient du mal à former les enfants, à former les élèves. Sachant qu'en fait, ce sont des éléments et ce sont des personnes essentielles pour ce problème d'éducation dans le pays. Donc déjà avec Barry, pour rebondir un peu sur ce que Barry vient de dire, il fait de bonnes choses, il a trouvé une fille qui n'est jamais allée à l'école, qui n'a pas d'éducation, tout. Il fait de son mieux en fait pour éduquer la fille en question. Donc déjà, il fait de son mieux pour changer la vie de la fille, parce que tout passe par l'éducation. Donc déjà, c'est
l'éducation. Et ses élèves.
Ouais. Exactement.
Mohamed est enseignant en cours préparatoire à Moroni, aux Comores. Voici le message qu'il nous poste. Mon père étant décédé, mon oncle a voulu marier ma sœur, qui aurait dû par conséquent quitter l'école. Je m'y suis opposée en tant que grand frère parce que j'avais ce droit et ma sœur est aujourd'hui diplômée d'une licence de lettres arabes, enseignante et mariée. Nous, les Africains, on doit comprendre que pour vivre une vie meilleure, il faut que nos filles, qui sont de futures mères, soient éduquées. Ibrahima Sori, ça vous rappelle un peu quelque chose cette
Oui, histoire? Tout à fait. Parce que d'autant plus, déjà, étant un jeune garçon, il est convaincu et il a eu la chance vraiment d'avoir une certaine qualité en lui. Et généralement, dans les grandes familles, les garçons sont d'autant plus écoutés que les filles. Donc, à travers cette influence, ils peuvent vraiment changer certaines conditions et voir même certaines situations dont sont victimes les filles.
Vous avez du pouvoir en tant que grand frère.
Bien sûr.
Vous allez nous en parler. Hein.
D'accord.
Vous êtes là pour ça. Mais tout de suite, alors je redonne le numéro de téléphone du standard, bien sûr. Hein. C'est la journée internationale des filles. Qu'est-ce qu'on fait pour en finir avec ces inégalités entre les filles et les garçons? Les garçons, on vous attend aussi au standard 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'une militante, Hassina Sherjan. Elle est née et a grandi en Afghanistan. À 19 ans, elle rejoint les États-Unis avec sa famille. Elle étudie l'administration à l'université de Harvard. L'UNESCO lui a remis cette année l'un de ses prix d'alphabétisation à l'ONG qu'elle a créé, Aid Afghanistan for Education. Et Charlie Dupio l'a rencontrée à l'occasion de son passage à Paris.
When I came back in 1999 during the Taliban period, the schools were closed.
Quand je suis revenue une première fois en Afghanistan en 1999, le pays était encore sous le régime des talibans. Les écoles étaient fermées. J'ai vu des femmes et des enseignantes faire la manche dans les rues. Je suis allée parler à certaines de ces enseignantes. Nous avons eu l'idée qu'elles donnent cours à des jeunes filles, mais j'avais peu d'argent avec moi. J'avais seulement 3000 dollars. Avec cette somme, nous avons créé 5 classes, des classes clandestines pour filles. Ces classes avaient lieu en secret chez 5 enseignantes différentes. J'ai acheté du matériel, des livres, et j'ai quitté le pays en laissant de l'argent pour payer les salaires des enseignantes. Nous étions en 99. Ces classes ont existé jusqu'en 2001. Ensuite, je suis rentrée définitivement, en 2001, après la défaite des talibans. Les écoles publiques pour filles ont rouvert à ce moment-là et j'ai rencontré un grand nombre de jeunes filles inscrites à l'école. J'ai alors réalisé que des filles de 17-18 ans étaient en classe de CE2 ou de CM1, car leur scolarité avait été interrompue par la guerre. D'ailleurs, cela a aussi été le cas pour les garçons. L'Afghanistan a traversé plus de 30 ans de guerre et encore aujourd'hui, la guerre n'est pas finie. C'est pour cela qu'en Afghanistan, nous avons l'un des taux d'alphabétisation les plus bas au monde, seulement 38%.
Et pourquoi c'est important pour vous de mettre l'accent sur l'éducation des filles ?
En Afghanistan, quand elles atteignent l'âge de 12 ans, la moitié des filles sont soit fiancées, soit déjà mariées. Quand je suis rentrée en 2001, j'ai mis du temps à convaincre le gouvernement et les donateurs internationaux que nous avions besoin d'un programme d'éducation accéléré pour les filles, un programme spécial pour rattraper toutes ces années de guerre.
Finally, in 2003, we opened the very first program.
Finalement, en 2003, nous avons pu ouvrir le premier vrai programme pour accélérer leur scolarité en Afghanistan. Les cours pour ce programme ont lieu dans des maisons que nous louons. Actuellement, nous avons près de 3000 élèves. La moitié d'entre elles sont mères. Nous gérons 9 écoles dans 5 provinces du pays.
Et combien d'enseignants et comment vous recrutez vos enseignants ?
We have around 176 teachers.
Nous employons 176 enseignants. Aujourd'hui, nous travaillons de près avec le ministère de l'Éducation qui sélectionne les enseignants de notre programme et prend en charge leur salaire depuis 2014. La majeure partie sont des femmes.
Et alors, à quoi ressemble ce programme ?
En fait, les filles étudient 12 ans de scolarité normale en seulement 7 à 8 années d'études pour obtenir leur diplôme de fin de secondaire. Nous ne faisons pas de pause l'hiver. Quand les écoles officielles ferment pendant 3 mois chaque hiver, nous continuons les cours avec seulement de courtes vacances. Pour aller plus vite dans le programme, nous préférons chauffer les salles de classe. Nous suivons les programmes scolaires du gouvernement. Et quand nous disposons des financements suffisants, nous proposons à nos élèves, pendant la dernière année du programme, une formation professionnelle. Par exemple, pour apprendre à devenir chef de bureau, responsable administratif, pour apprendre à gérer les papiers et les courriers. On peut aussi les initier à la comptabilité ou leur donner plus de cours d'anglais, d'informatique. Comme ça, si elles veulent travailler tout de suite à la sortie de l'école, elles pourront plus facilement trouver un poste.
Quels métiers font vos anciennes diplômées, par exemple ?
A lot of them have become teachers.
Beaucoup d'entre elles sont devenues enseignantes. D'ailleurs, l'une de nos profs de maths, qui enseigne au sein de notre école, travaillait pour nous comme cuisinière auparavant, dans la toute première école que nous avons ouverte à Kaboul. Elle avait arrêté l'école à la fin du primaire et en voyant que certaines de nos élèves étaient aussi âgées qu'elle, elle a décidé de reprendre les études. Donc, elle faisait la cuisine le matin et elle étudiait l'après-midi pour pouvoir devenir enseignante. Nous avons aussi d'anciennes élèves qui sont devenues sages-femmes et certaines choisissent d'étudier à l'université. C'est le cas de beaucoup d'entre elles. L'une de nos anciennes élèves a 45 ans et a été diplômée il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle étudie dans une école de droit. Et voilà, ensuite, elles peuvent ramener de l'argent à leur famille.
Et combien coûtent ces programmes ?
The cost of our students per year is only...
Chacune de nos étudiantes nous coûte par an seulement 160 dollars, soit 140 euros. Chaque année, en tout, nous avons besoin de près de 430 000 euros.
Et pour les filles qui participent à ce programme, c'est gratuit.
It's free of charge for everybody, yeah, yeah, of course.
Oui, c'est gratuit pour toutes, bien sûr. Je suis très optimiste. Je pense que nous devons continuer à travailler pour atteindre le plus grand nombre de filles possible. Car dans nos écoles, j'en ai été témoin, l'éducation a vraiment changé des vies.
Michel Perrault de Plan International, votre ONG a lancé cette journée mondiale des filles en 2012. Là, c'est la 7e année. Est-ce que l'accès à l'éducation pour les filles progresse? Est-ce que les inégalités entre les filles et les garçons se réduisent aujourd'hui?
Alors oui et non, parce que l'éducation des filles et des enfants en général a beaucoup progressé pour ce qui est de l'inscription dans le primaire. On a néanmoins encore une disparité aujourd'hui, puisque 54% des enfants non scolarisés sont des filles, avec des disparités encore très fortes en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Je peux vous donner des chiffres, par exemple, sur la Guinée. Une fille sur deux qui n'achève pas l'école primaire, avec des décrochages importants au secondaire, puisqu'elles sont plus de 7 filles sur 10 en âge d'aller au collège qui n'y vont pas. On passe à 9 sur 10 pour le lycée. Et pour l'Inde, on n'a que la moitié des filles qui vont passer du primaire au collège. Donc on a encore de gros enjeux en termes de scolarisation. Et aujourd'hui, on parle également beaucoup aussi des questions de qualité de l'éducation. Il ne s'agit pas uniquement qu'elles accèdent à l'éducation, mais il y a encore beaucoup de défis à relever en termes de qualité de l'éducation.
Le gros enjeu à l'heure actuelle, si on a progressé quand même globalement pour scolariser plus de filles à l'école primaire ces dernières années, mais tout comme aussi les garçons d'ailleurs, hein, c'est le passage du primaire au secondaire. C'est là qu'on lâche les filles, en fait.
On a entendu déjà quelques témoignages depuis le début de cette émission, autour notamment du mariage des enfants. On a encore 12 millions de filles aujourd'hui qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ça fait 33 000 filles par jour. Ces filles, une fois mariées, décrochent de l'école, ont des grossesses précoces, et il leur est extrêmement difficile après de reprendre leurs études. Donc c'est un vrai défi aujourd'hui de leur garantir cet accès à l'école par rapport au moment de la puberté, en fait, qui est un moment où les familles vont craindre pour leur sécurité. On sait que le chemin de l'école est aussi un vrai sujet. Mmh. On sait que la sécurité n'existe pas dans l'école. Et donc,
qui est souvent un peu ouverte à tous les vents, hein, finalement.
Oui, il n'y a pas forcément des toilettes séparées filles et garçons. Les filles, etc., ont peur à l'école. Mmh. Elles ont peur, elles sont agressées parfois par leurs enseignants, par leurs camarades. Donc ces violences de genre en milieu scolaire affectent encore aujourd'hui beaucoup de filles, ouais, et amènent des taux de déscolarisation.
Et si les filles ont peur, les parents aussi ont peur pour leurs filles. Raison de plus pour ne pas les scolariser au moment de l'entrée dans le secondaire, par exemple.
Ça peut être un facteur, le problème de sécurité des filles, non seulement à l'école, mais aussi sur le chemin de l'école, parce que la plupart des cas de viol, d'harcèlement sexuel, parce que même à l'école, il y a des professeurs qui demandent à ce que les filles, je ne sais pas, en échange du sexe ou en échange de quoi que ce soit pour les notes.
Oui. Donc là, ça s'appelle les notes sexuellement transmissibles. Hein. Les auditeurs connaissent bien ça.
Donc il y a ces facteurs, en fait, qui menacent réellement non seulement les parents, mais aussi les filles en question. Donc elles sont affectées moralement, physiquement, agressées. Donc elles ne se sentent pas du tout en sécurité de continuer les écoles, voire même d'aller à l'école. Si une fille, elle est affectée, donc ça, c'est super compliqué pour elle de laisser sa sœur aller à l'école, de laisser son enfant aller à l'école, de laisser ses proches aller à l'école. Donc après, c'est violence. Donc elle est, je ne sais pas, à risque d'être mariée, donnée en mariage parce qu'elle ne fout rien à la maison et elle n'est pas à l'école. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est aller chez son mari. Imagine une petite fille qui n'a pas 18 ans, elle va chez son mari. Donc les problèmes ne font qu'aggraver, au lieu qu'elle s'améliore dans sa vie et tout.
Alors néanmoins, il y a des pays qui ont fait des progrès, hein, comme le Sénégal, qui est quasiment à parité, en tout cas pour l'école primaire. Marie-Augustine, on va l'écouter, son témoignage. Elle a 21 ans, elle est sénégalaise, elle étudie le marketing et la communication. Le reste du temps, elle est soutenue par l'ONG Plan International. Et elle mène des campagnes de sensibilisation sur le mariage des enfants pour l'éducation des filles. Charlie Dupiot l'a rencontrée à l'occasion de son passage à Paris il y a quelques semaines.
Je suis née et j'ai grandi en Casamance, en particulier dans la région de Sédhiou. J'ai grandi dans une famille avec ma maman, ma grand-mère et ma tante, donc une toute petite famille. J'habite pas avec mon papa par contre. J'étais la seule comme petite fille à la maison. J'ai pas grandi ni avec un frère ni avec une sœur.
Vous, quel est votre rapport à l'école?
J'aime bien l'école. Parce que depuis le bas âge, ma maman s'est battue énormément pour pouvoir m'inscrire à l'école. Donc j'ai suivi un cursus normal, de la garderie jusqu'à l'université actuellement. Et je m'inspire toujours de sa vie à elle. Elle s'est arrêtée en classe de terminale. Elle n'a pas pu passer le bac à cause de ma naissance. Elle a dû arrêter les études pour s'occuper de moi. Ma mère, elle est ménagère, comme cuisinière dans une maison. Et à chaque fois, je me dis, j'ai pas le droit de la décevoir. Elle a fait un énorme sacrifice. Et elle était toujours là pour veiller à ce que je fasse partie des meilleurs de mon école. À l'élémentaire, j'essaie de participer à tout ce qui est événement dans les clubs de jeunes, d'échanges, que ce soit les clubs d'histoire, des clubs de VF, éducation à la vie familiale, qui permet aux jeunes de pouvoir échanger sur la santé de la reproduction, sur différentes thématiques, que ce soit les grossesses précoces, les mariages d'enfants, les mutilations génitales. C'était plus les profs qui le faisaient, qui sont responsables de ces clubs. Les clubs sont carrément gratuits. Mon élémentaire, je l'ai fait dans une école privée. Le collège et le lycée, je l'ai fait dans des écoles publiques. Et il y avait une ONG, la CONAF, la Coalition Nationale des Associations et ONG en faveur de l'enfance, qui, avec plan international, voulait créer une structure qui allait regrouper les enfants et les jeunes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil consultatif des enfants et jeunes. Avant d'y aller, je me préparais psychologiquement. J'ai essayé de revoir les 10 droits de l'enfant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait droit à l'éducation, droit à un nom, à une vie, à la famille, droit à survie, tous ces droits. Et j'ai essayé de faire une étude. Combien d'enfants il y avait dans mon quartier qui n'avaient pas d'état civil? C'était assidu parce que j'avais, je crois, 12, 13 ans. J'étais encore adolescente. Et c'était mon premier plaidoyer que j'avais fait avec la présence du maire de ma localité sur tous ces enfants qui ne parviennent pas à passer l'examen, le premier examen de l'école, c'est le CFE.
Du passage en fait du CM2 à la 6e.
À la 6e, à cause juste du manque d'état civil. Et en même temps avec la mairie, donc il y a eu pas mal d'audiences foraines qui ont été faites afin de pouvoir leur donner un nom et droit à une nationalité.
Vous êtes engagée dans ces campagnes pour la question des enfants sans identité. Au Sénégal, c'est un vrai problème, ça concerne environ un enfant sur deux, et c'est particulièrement le cas en Casamance, donc dans le sud du pays. Et puis vous avez décidé de vous engager pour le droit des filles à l'éducation, en luttant contre les grossesses précoces, ou contre les mariages forcés, les mariages d'enfants. Pourquoi est-ce que c'est cette cause-là qui vous parle, et qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-dessus?
J'avais une cousine à moi, avec qui j'étais très proche, qui allait à l'école, mais en un moment, elle a arrêté. Parce qu'elle a pris une grossesse précoce. Et ça m'avait fait très mal.
À quel âge?
14-15 ans. Et quand la fille tombe enceinte, on renvoie la fille, alors que le garçon a la possibilité de continuer ses cours. C'est pas normal. Ça m'énerve, ça pose problème, j'aime pas. J'ai pas envie de cette discrimination dans mon peuple. La majeure partie des filles arrivent au secondaire, commence à laisser l'école.
Pas seulement à cause des grossesses précoces, d'ailleurs.
Pas seulement à cause des grossesses précoces. D'autres parce que les parents n'ont plus suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge l'éducation des filles. Alors ça devient un pesage. J'ai une fille et un garçon, je dois choisir. Et en majeure partie, c'est la fille qui est défavorisante. Je me dis que j'ai eu de la chance de grandir dans une famille où les parents ont eu quand même les moyens de m'envoyer à l'école. J'ai pas envie de faire partie de ce grand groupe qui ne fait que voir les inégalités et cautionner les inégalités. Partout où j'ai la chance de pouvoir rappeler aux décideurs, les élus locaux, les décideurs communautaires, de prendre en compte cet aspect éducation et maintien des filles à l'école, je le fais.
Kadiatou Ibrahima Sori, vous la connaissez bien, Marie-Augustine, hein?
Oui.
Marie-Augustine du Sénégal, ouais.
C'est ça, c'est une de vos collègues militantes. Comment et pourquoi vous vous êtes engagés tous les deux? Ibrahima Sori, toi tu as 23 ans, tu es un garçon.
Oui.
T'as jamais eu de problème?
Non, pas
personnellement.
Du tout. Non.
Alors?
Bon, en fait, tout d'abord, parlant de mon engagement en faveur des droits de l'enfant en général, et celui des jeunes filles en particulier, est venu de deux contextes. Donc, le premier, c'était dans ma famille. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où les filles et les garçons ont eu la chance d'aller à l'école. J'ai deux frères et deux sœurs. Donc, quelques années plus tard, j'ai intégré le Parlement des enfants de Guinée.
À 15 ans, hein?
Oui, qui est une institution de défense des droits de l'enfant composé de 114 enfants, soit 62 filles, dont 52 garçons, donc qui avaient pour rôle de défendre les droits de l'enfant.
Mais tu es né dans une famille de militants pour te retrouver à 15 ans à la tête du Parlement des enfants de
Non, pas du tout. Au début, je me suis inspiré, comme je l'ai dit, au sein de ma famille. Et quand j'ai intégré le Parlement des enfants, parce que c'était un processus à chaque année ou à chaque législature, quand il y a une équipe qui est en fin de mandat, on fait appel aux structures d'encadrement des enfants, des ONG, des clubs et SOS qui encadrent les enfants qui soient dans des situations difficiles ou des enfants qui sont dans le besoin. Donc c'est d'où maintenant quand ils ont essayé d'adresser la lettre au sein de mon école pour dire que nous avons besoin de quelques enfants pour représenter votre école lors d'une rencontre avec d'autres enfants venus d'autres horizons différents. Et c'est là, puisqu'avant d'aller, on était tous convaincus de la situation dans laquelle les enfants se trouvaient.
D'accord, non mais c'est pas un hasard quand même. Qu'est-ce qui, en toi-même, c'est quoi les ressorts qui fait que tu es tombé dans ce militantisme pour le droit des enfants, pour les droits des filles? Est-ce que c'était un sujet qu'on abordait à la maison? Est-ce que tu as commencé à te battre pour tes petites sœurs d'abord?
Bon, je suis né, tout d'abord, dans un quartier très populaire où les enfants étaient beaucoup plus défavorisés, dont les droits étaient vraiment violés. Donc, parfois, on se disait, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce traitement? Donc, chaque fois, c'est les questions qui me traversaient beaucoup l'idée et la tête.
Et que répondaient tes parents quand tu leur posais la question, quand tu étais petit?
Bon, ils disaient, bon, peut-être ça dépend de la mentalité des familles. Donc, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui connaît déjà les droits de l'enfant et qu'ils respectent. Mais contrairement à d'autres familles qui peut-être ne respectaient pas les droits et à chaque fois ils se voyaient un peu transgresser ces droits et autres-là. Donc du coup il fallait qu'on se donne la main pour que les choses puissent changer.
Tu as quand même commencé à militer à l'intérieur même de ta propre famille.
Tout à fait.
Sur certaines questions tout de
même.
Bien
sûr.
Lesquelles?
Parce que ma sœur également. Parce qu'à chaque fois, quand on était à la maison, parfois ma maman disait, voilà, c'est à toi de faire ça. Et ton jeune frère, voilà, lui, il a un temps libre, voilà ce qu'il doit faire. Donc parfois, elle se sentait un peu gênée pour dire, mais attends, pourquoi à chaque fois c'est moi et mon grand frère, il a un temps libre? Donc du coup, moi-même, je me suis dit, peut-être que c'est injuste parce que je suis un garçon et qu'elle est une fille. C'est pourquoi quand il y a certains travaux ou certaines choses à faire à la maison, je suis beaucoup plus déchargé contrairement à elle. Donc, j'ai essayé un peu de nettoyer ou de débarrasser un peu cet ancrage au niveau de la mentalité des parents.
Sur l'excision, comment ça s'est passé dans ta famille?
Sur l'excision, déjà, mes parents sont convaincus quand je suis arrivé au Parlement. Donc, on a vu que déjà, c'est une pratique déjà qui prenait de l'ampleur dans notre pays, avec un taux de prévalence très élevé, soit le deuxième pays au rang mondial à avoir gardé cette pratique. Donc,
on va dire la quasi-totalité des filles en Guinée sont excisées.
Tout à fait.
On va dire les choses clairement.
Tout à fait. Donc, à chaque fois que j'avais des informations sur les droits de l'enfant, une fois à la maison, j'en parle. J'ai dit, papa, maman, voilà, il y a une loi actuellement qui interdit la pratique des mutilations génitales. Donc, c'est une pratique déjà injuste et indigne. Donc, il faut vraiment protéger nos jeunes sœurs contre cette pratique. Ils disaient, mais attends, pourquoi tu soutiens cette...
Tu es fatigant,
cette...
ils te disaient,
ouais,
non?
Voilà, des stéréotypes, chaque fois, on en rencontrait, parce qu'il y a certains, parfois, soit parfois dans ma famille et entre mes proches, qui disaient, mais attends, à quoi sert de s'engager pour cette cause? Mieux vaut s'occuper de toi au lieu de t'occuper des autres. Et parfois, d'autres même se disaient, attends, le combat pour les filles, ce n'est pas un combat d'avenir. L'excision, c'est une pratique qui a déjà existé. C'est un héritage. Donc, nous allons toujours continuer à pratiquer. Donc, on avait aussi des arguments qui, à chaque fois qu'on utilisait pour essayer de remédier à cette insuffisance.
Et évidemment, tout ça est lié, hein, tous ces problèmes-là, mariage précoce, excision, accès à l'éducation des filles, autonomisation des femmes, tout se tient, tout est lié. Kadiatou, toi, à 17 ans, ton père, au contraire, était plutôt assez engagé. T'as pas du tout été amené au militantisme de la même manière?
Non.
C'était plutôt un défi que t'as lancé ton papa, non?
Oui. Au début, c'était un défi, mais après, ça a changé de tournant parce que je ne voyais plus comme défi, mais je voyais comme, on va dire, ce que je devrais faire, un rôle que je devrais vraiment assumer.
Il me semble que ton père, il tient un peu quand même le discours de pas mal de politiques en Guinée, la jeunesse ne fout rien.
Exactement. Il aimait souvent le dire, les jeunes ne foutent rien. Donc après, je lui ai dit, les jeunes foutent quelque chose et je vais te le montrer. Donc ça a été un peu le porte-flambeau de notre défi. Donc on a commencé... Mais après, j'ai rencontré une amie, comme j'aime souvent le dire, qui m'a un peu amenée vers ce combat. par après, j'ai trouvé vraiment que c'était une passion à moi. On va dire, je suis dans un pays où la plupart de mes amis ne partent pas à l'école. Je suis dans un pays où mes amis sont mariés de force, où, on va dire, à bas âge. Et elles ont pratiquement une vie brisée. Donc, c'est devenu un problème majeur dans mon pays. À force d'être dans cette vie, je dis que je peux changer les choses. Donc, c'est devenu une volonté pour moi de changer les choses dans mon pays. Mes amis doivent aller à l'école.
Alors justement, on aimerait comprendre comment vous travaillez, l'un et l'autre, hein, jeune fille, jeune garçon, vous êtes dans des organismes différents aussi, mais vous vous croisez, vous travaillez aussi ensemble. Concrètement, comment vous, en tant que jeune, vous agissez, Kadiatou?
Déjà, l'union fait la force. On travaille en tant que jeune homme, il y a le conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée, le club des jeunes filles de Guinée, le club des jeunes filles est composé seulement de filles, et tandis que le conseil consultatif est un peu mixte, donc... Personne ne peut évoluer à vase clos, comme on le dit. On peut faire de notre mieux.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut une action non mixte, hein, avec des filles qui parlent aux filles, et des moments où il faut une action collective avec les filles et les garçons ensemble.
Il faut la partition en fait, de tout le monde, de tout un chacun, parce que les hommes ou les garçons peuvent réellement changer les choses, parce qu'ils sont les facteurs essentiels, ils sont les éléments clés qui essaient de faire en sorte qu'on soit victime de ces problèmes. Donc si eux déjà, ils commencent à changer les choses dans leur tête, dans leur subconscient, dire oui, avec les filles, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc les parents vont parler, mais après, eux, ils savent déjà quoi faire et ils savent déjà ce qu'il faut changer dans tous ces facteurs.
Mais concrètement, comment vous travaillez, Ibrahim Assori? Vous,
bon, voilà,
vous sillonnez les médias, vous allez voir des responsables de communauté, des responsables religieux, comment ça se passe?
Bon, tout d'abord, comme elle a dit, c'est l'union et aussi le combat en faveur des droits de l'enfant, c'est un combat transversal. Donc, chaque partie prenante a un rôle à jouer, donc étant un garçon. Donc, on a un rôle important à jouer dans ce processus. Donc, parfois, nous utilisons les plaidoyers, des causeries éducatives, parfois des séances d'échange.
Donc, ça, c'est les causeries dans les quartiers, hein, les causeries éducatives.
Oui, par rapport à certaines thématiques, parce que là, comme déjà les mutilations génitales, c'est une pratique déjà bien connue. Donc, il faut aller vers des filles, des parents, des élus locaux pour leur parler réellement c'est quoi cette pratique, pourquoi nous pratiquons et quels sont les inconvénients, les conséquences liées à la pratique de l'excision. Et donc, après qu'on aura terminé ces différentes causeries, on élabore un mémorandum qui parle un peu des aspirations des jeunes filles victimes des mutilations génitales.
Mais ça fait 20 ans qu'on raconte qu'on fait des causeries.
Oui.
En fait, avec ces causeries éducatives, actuellement, on a changé de méthode. Nous, on va maintenant vers nos amis jeunes, parce qu'avant, si on est des quartiers, on essayait de convaincre les parents, mais on comprend maintenant...
Que ça ne
vaut
à
pas
rien.
La peine de convaincre les parents, mais plutôt les jeunes actuels, parce que ça, c'est déjà le passé. L'idéal, maintenant, le focus, c'est sur la génération future. Tout. Donc, avec nos amis, non seulement on crée des plateformes de discussion à travers les médias, mais les réseaux sociaux, mais aussi on va dans les écoles, on sillonne les écoles du pays, les écoles de la capitale, pour discuter avec nos amis, les montrer réellement qu'ils ont, ces filles et ces garçons, qu'ils ont vraiment un rôle à jouer dans le changement de mentalité, dans le processus de développement du pays, et ça doit obligatoirement passer par eux. Donc, à force de discuter avec eux, organiser des conférences, débats entre jeunes, discussions entre jeunes, des plateformes d'échange entre jeunes, ça marche très, très bien. Ça marche super bien. Et on arrive à les convaincre.
Les jeunes sont intéressés par le sujet.
Oui, oui, super, parce qu'il n'y a pas assez d'espace spécifique d'échange entre jeunes. Ça n'existe vraiment pas dans mon pays. Donc, après, on se dit, oui, on peut faire les choses. Donc, à chaque fois qu'on a l'opportunité de discuter entre jeunes, on le fait. On n'hésite pas de le faire. On bouscule partout où on va pour qu'on ait un espace d'échange, un espace de communication pour nous.
Donc, en fait, je crois que la cause éducative, je crois que c'est aussi très important parce que dans les familles, ce n'est pas les enfants qui décident. Donc, les parents ont une autorisation, ont une autorité sur les enfants. Donc, je crois que c'est d'autant plus important que les parents eux-mêmes soient sensibilisés, soient convaincus que l'excision, déjà, c'est une pratique qui n'est du tout pas appréciable, dont il ne faut vraiment pas continuer. Donc, si les parents sont convaincus, c'est aussi facile pour les parents de préparer un peu l'avenir des enfants tout en les protégeant contre cette pratique. Donc, c'est très important quand on fait ces causeries, qu'on en parle d'abord aux parents. Si parfois on a des difficultés parce que les parents parfois se sentent un peu gênés que les jeunes viennent vers eux pour parler de ces questions, donc on passe par les communicateurs traditionnels, soit par des personnes très influentes au sein de la communauté, afin qu'elles puissent vraiment passer le message que nous avons à passer.
Vous on êtes parle des enfants, futurs parents, hein.
Oui. Oui, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Futurs parents qui ont des enfants assez jeunes, on fonde une famille assez jeune en Guinée. Vous êtes tout le temps dans les médias. Hein, la radio, la télévision n'a pas de secret pour vous. D'ailleurs, on le constate, vu votre aisance à l'antenne, en étant direct chez 7 milliards de voisins sur RFI, ça ne vous pose aucun problème. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ça, c'est la clé. Ouais. Même si on est quand même dans un pays, la Guinée-Conakry est avant-dernier pays pour l'accès à Internet. Il n'y a que la Somalie derrière la Guinée. Pour l'accès, oui. Je vous l'apprends, Kadiatou.
Ouais.
Néanmoins, c'est vrai qu'en dehors de Conakry, c'est difficile d'agir sur les réseaux sociaux avec les jeunes.
Non, ce n'est pas aussi difficile que ça parce que nous, à travers le club, les organisations qui se trouvent au niveau régional et dans les zones un peu rurales et tout, toujours avec, on va dire, la connexion avec les médias, les réseaux sociaux, on donne toujours une heure de connexion, d'échange avec ces filles. Même si ce n'est pas aussi facile que ça pour qu'ils aient accès à la connexion, mais on fait de notre mieux pour discuter avec eux. Donc, on fait en fonction de leur timing, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur manière de faire les choses.
Michel Perrault, l'argent est aussi quand même aujourd'hui un vrai frein à l'éducation des filles, que ce soit pour les politiques publiques, pour les familles.
Oui, ça reste un des principaux freins, effectivement, parce que même quand l'école est gratuite, il n'en demeure pas moins qu'il reste des frais de scolarité à couvrir, des frais de transport, donc ça peut être un vrai blocage. Et comme l'a dit Marie-Augustine tout à l'heure...
Au Sénégal.
À propos du Sénégal, que malheureusement, une famille défavorisée qui a un choix à opérer entre scolariser un garçon et une fille au moment du secondaire, va avoir tendance à scolariser plutôt le garçon.
Alors, il faut dire d'ailleurs, pour aller plus loin que ce que dit Marie-Augustine, c'est que les familles préfèrent investir dans l'éducation des garçons parce que envoyer une fille à l'école, c'est investir pour sa future belle-mère qui va en profiter. D'une certaine manière, c'est aussi ça parfois, le discours qui est tenu.
Oui, il faut changer en fait la croyance autour du potentiel des filles. Il faut savoir que investir dans l'éducation d'une fille, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui pour atteindre les objectifs du développement durable. On a 1001 rapports à l'appui aujourd'hui des Nations Unies, de la Banque mondiale qui le dit. On sait qu'une année de scolarité en plus pour une fille, c'est un revenu augmenté de 10 à 20%. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on appelle les externalités positives de l'éducation des filles sont démontrées. L'enjeu, c'est effectivement faire passer le message, c'est-à-dire convaincre les parents aussi qu'ils enverront leurs filles pas à perte à l'école. Et donc, je reviens sur mon point de la qualité de l'éducation, c'est que si la fille n'en sort pas avec des compétences qui vont lui être utiles après dans sa vie et pour trouver un emploi et être autonome, à ce moment-là, il y a une perte de confiance. Et aujourd'hui, il y a aussi ces enjeux-là. Il n'y a pas que les enjeux financiers qu'on a évoqués déjà.
Qu'il faudrait, comme le font certains pays, que à l'école primaire, que ça soit complètement gratuit pour les filles, puisqu'on sait que l'école est gratuite souvent dans les constitutions, mais sur le papier, et qu'il y ait un réel avantage financier donné par l'État, donné par les politiques publiques pour les filles, au risque d'ailleurs de créer un sentiment de discrimination positive, de discrimination tout court.
À ce niveau, avant de répondre à la question, pour rebondir un peu sur ce que Michel vient de dire, on dit généralement chez nous que les diplômes des filles ne servent à rien, que ce sont des papiers qu'on garde pour les souris dans la chambre. Donc, la place de la fille, c'est chez son mari, c'est dans son foyer, donc elle n'a pas besoin de ces papiers. C'est juste éphémère dire qu'elle est partie à l'école, donc elle sait lire et écrire. Donc, c'était un peu pour rebondir sur ce que Michel vient de dire. Et concernant un peu l'éducation des filles, la gratuité, on va dire, de l'éducation scolaire, une fois, on était en conférence et abordant un peu ce sujet de gratuité, de l'éducation scolaire pour les filles à l'école. Et il y a un monsieur qui s'est levé dire que « Donc, on veut que les hommes ou les garçons soient paralysés dans le monde. Si l'éducation devient, on va dire, gratuite pour toutes les filles, là, le taux des hommes vont baisser le taux des hommes va baisser.
Les garçons va baisser.
Exactement, va baisser. Donc là, on ne parle plus d'hommes, mais on parle de femmes scolarisées. Les femmes vont prendre le bâton de pèlerin dans le monde pour diriger le monde, tout. Donc là, il ne faudrait pas qu'on fasse ça, il ne faudrait pas qu'on parle de la gratuité scolaire pour les filles à l'école. Donc ça devient super compliqué.
L'éducation est un droit et un moyen de lutter contre la pauvreté. En tout cas, ça, c'est une certitude. Les voisins, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour en finir avec les injustices qui touchent vos sœurs, vos cousines ou vos petites amies? On vous donne le numéro de téléphone. Bien sûr, les voisines, vous avez aussi la parole. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Jérôme est en ligne avec nous, étudiant à l'université de Lomé, 24 ans. Bonjour Jérôme.
Bonjour Emmanuel, bonjour Arachi.
Vous êtes en direct, on vous écoute Jérôme.
Voilà, je vous appelle par rapport à une situation que j'ai vécue. Voilà, je suis étudiant en ressources humaines et j'ai une charge humaine. Elle s'appelle Salia. Donc, dès l'enfance, nous avons commencé l'école, donc nous avons commencé au village.
Oui.
Et nous avons commencé au village dans la même classe.
Oui, bah forcément, donc, vous êtes jumeaux, vous êtes... D'accord, oui.
Donc, nous avons évolué ensemble. Ma sœur était plus brillante que moi, souvent elle était toujours première de la classe. Et moi, je traînais toujours au niveau de la 5e et 6e classe. Donc, c'était un peu difficile à la maison parce que l'on disait, voilà, c'était la fille qui me dépassait et c'était un peu compliqué. Et juste après, nous avions eu le BPC.
Oui.
Arrivé en classe de 3e, il fallait aller en ville pour continuer le lycée parce qu'il n'y avait pas de lycée dans notre village.
Vous aviez quel âge à l'époque, donc, tous les deux, vous et votre sœur jumelle, Jérôme, quand vous avez eu le brevet?
Nous avions 15 ans.
15 ans.
Donc, juste après... Et la famille, il a fallu que la famille choisisse. Donc, la famille m'a choisi. Ils ont dit qu'ils vont investir sur moi parce que ma sœur est une fille et ils disent qu'ils ne peuvent pas investir sur elle et tout. Donc, bon, ils m'ont choisi et je suis parti. J'ai continué mes études
au lycée.
Vie, au lycée
et votre sœur, qu'est-ce qu'elle est devenue, votre sœur, alors?
Ils l'ont mariée de force à l'âge de 17 ans. Donc, elle a eu un enfant, maintenant elle a un deuxième, et elle vit avec son mari. Donc, voilà, je me suis toujours senti coupable, parce que je me dis que j'ai pris sa place. La place qu'elle méritait, je l'ai prise. Et là, j'ai l'intention de payer ses études après. Donc, j'en ai parlé avec son mari, il est d'accord. Donc, elle a suivi les cours du soir, continuer le lycée et finir ses études universitaires. Donc, j'ai la paix, parce que je ne suis pas en paix avec moi-même. Quand je la vois, je suis triste, parce que je me dis que je l'ai triché.
Vous aviez le droit à l'éducation, vous aussi, Jérôme. C'est pas parce que vous n'étiez que 5e de la classe, vous savez. Vous avez tout autant le droit que votre sœur, donc vous n'êtes coupable de rien et vous ne lui avez pas volé sa place. C'est plutôt quelqu'un d'autre, la famille, qui lui a volé sa place dans l'éducation. En tout cas, merci pour ce témoignage. Bravo aussi pour les leçons que vous en tirez. Qui veut réagir à ça, Kadiatou?
Déjà, c'est bien voilà, qu'il rebondisse un peu sur ça, à dire qu'il a volé la place de sa sœur,
mais
il doit savoir qu'il n'a pas volé.
Il n'est pas coupable.
Il n'est pas coupable, ce sont les parents. Les parents doivent savoir que les hommes, les filles, les femmes ont les mêmes droits. Elle doit aller à l'école. Sa place n'est pas chez son mari. Elle doit contribuer au changement du pays. C'est ça, on dit souvent que pour investir, quand on veut choisir, Marie-Augustine, elle dit souvent, et elle a parfaitement raison, on choisit beaucoup plus l'homme parce qu'on dit que l'homme a beaucoup plus d'avenir que la femme. Ne sachant pas que la femme développe une partie d'elle qui est, on va dire, actrice du changement du monde.
Oui, enfin...
Elle peut s'investir. Elle a, je ne sais pas, ce don en elle qui peut beaucoup faire pour changer.
Oui. Quand on vous écoute, Ibrahima Sori et Kadiatou, tous les deux, là, question à venir, je dirais c'est 50-50, tous les deux.
C'est 50-50.
Vous avez vraiment autant de talent, l'un que l'autre, en tout cas. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71. 71, Afi nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Afi.
Bonjour, les voisins.
On vous écoute, Afi.
Je suis architecte d'intérieur. Je travaille dans un bureau d'études où je suis la seule femme parmi tant d'hommes. Et aussi, comme descendant sur terrain, plus sur chantier, je suis aussi la seule femme. Et cette position crée en quelque sorte le respect vis-à-vis de mes collègues, parce que je suis la seule dans la boîte. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, la femme et l'homme ont tous un cerveau. Et le tout se joue au niveau du rendement que chacun doit rendre par rapport à ses capacités, ses potentialités. Voilà, en fait.
Merci à Fille de nous avoir appelé pour ce message. Merci à vous tous. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission aussi en direct hein, chez 7 milliards de voisins. 33 1 84 22 71 71. On le sent bien, Ibrahima Sori, Kadiatou, Michel Perrault. Les mentalités dans votre génération, vous les jeunes, hein, puisque Kadiatou, vous avez 17 ans, Ibrahima, vous avez 23 ans, sont en train de changer. Toute la question est de savoir si, quelle est l'ampleur de ce changement. Est-ce que ça touche uniquement quelques quartiers, dans les grandes villes, dans les capitales et uniquement les villes secondaires, par exemple? Ou est-ce que ce changement est plus profond que cela? Et comment on établit une passerelle avec les décideurs? Parce que vous êtes à des années-lumière en même temps des décideurs politiques. Mmh. Ibrahima Sori.
En fait, je crois que dans cette dynamique, déjà, je peux dire que nous touchons non seulement les familles, au-delà des familles, la communauté, mais aussi de façon très nationale. Donc, les garçons, déjà, pour ce combat en faveur des filles, nous sommes beaucoup plus convaincus déjà qu'il faut une égalité. Faire comprendre aux uns aux autres, parce que c'est d'autant plus difficile. Je vais vous raconter une histoire d'une causerie auquel on a animé. Pour les garçons, le combat entre les filles et les garçons ou entre hommes et femmes, c'est un combat contre les hommes. Et certains pensent réellement que parler d'égalité entre hommes et femmes, que c'est les traiter au même pied d'égalité. Donc tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Donc ils perçoivent cela de façon très négative. Et donc, quelle était notre
mission? En tout cas, comme une mise en danger du patrimoine culturel.
Tout à fait, tout à fait. Donc pour ces hommes qui ont cet ancrage culturel très profond, c'est d'autant plus difficile qu'ils soient convaincus par les filles qui viennent vers eux pour leur dire voilà pourquoi nous militons pour nos droits, voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait une question d'égalité. Donc, pour les jeunes hommes et les garçons qui sont d'autant plus convaincus, donc entre garçons, on s'échange pour dire réellement que voilà, le combat pour l'égalité entre hommes et femmes ou entre filles et garçons, ce n'est pas un combat contre les garçons, mais plutôt c'est une question de droits humains et que toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer pour vraiment un changement, afin que la situation puisse vraiment changer.
Et en même temps, Michel Perrault, oui.
Non, je voudrais rebondir, Emmanuel, sur ce que vous avez dit, que les jeunes étaient à des années-lumière des décideurs, parce que c'est vraiment, je crois, un peu le nœud aussi hein, du problème et de la solution. Pour Plan International, ce qu'on cherche à faire, c'est justement réduire cet écart entre les jeunes et les décideurs. Pourquoi? Parce que là, vous avez les exemples oui. vivants hein, du potentiel que les jeunes ont.
Les politiques ont du souci à se faire, à mon avis, hein, quand on les écoute.
Mais ils peuvent aussi se réjouir, quand ils les écoutent, d'avoir justement des jeunes aussi pertinents en face d'eux, qui peuvent les aider à développer les politiques publiques pertinentes et efficaces également. Surtout sur les sujets qui concernent la jeunesse. Et donc, un des principaux enjeux aujourd'hui, c'est d'ouvrir donc, les portes aux jeunes pour qu'ils puissent co-construire avec ces décideurs ces politiques publiques. Donc on a des cas où on y arrive très bien et il faut surtout arriver à changer le regard sur les jeunes. Hein. Les jeunes sont des acteurs de changement, ne sont pas des victimes et quand on leur donne les moyens de prendre la parole, de renforcer leurs capacités, et ben ils sont, comme vous les voyez aujourd'hui, tout à fait
Alors on est en ligne avec Bernard Zongo qui est le secrétaire exécutif de l'ONG du Centre Féminin d'initiation et d'apprentissage au métier à Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour Bernard Zongo.
Bonjour.
Bernard Zongo, je voudrais que vous nous disiez très simplement quels sont à l'heure actuelle les domaines de formation que vous proposez dans votre centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier. Vraiment en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission.
Nous avons l'électricité automobile. Nous avons la carrosserie automobile ou encore tôlerie peinture. Nous avons l'électronique. Nous avons la mécanique pour les cycles à deux roues. Et nous avons enfin une section pour couture.
Haute couture. D'accord. Kadiatou, qui est dans le studio, là, elle ouvre quand même des yeux très ronds sur les formations que vous proposez. Ça va à l'encontre de ce qu'on propose en général aux filles, essentiellement la couture, le tissage, la cuisine. Pourquoi ce choix, Bernard Zongo ?
C'est la question que je voulais poser.
Ce choix, parce que nous sommes dans un pays où on a 52% de femmes. Nous sommes dans un pays où le taux de chômage des jeunes est élevé, particulièrement les jeunes filles. Nous sommes dans un pays où il fallait obligatoirement travailler à innover, en essayant d'augmenter, d'améliorer le choix professionnel des filles.
Dans un pays, il faut le rappeler, hein, qui est à peu près au coude à coude avec la Guinée, parmi les 10 pays les plus mal situés où l'accès à la scolarisation pour les filles est la plus problématique. Aujourd'hui, vous avez commencé il y a quelques années en formant une petite poignée de jeunes filles de 14 à 23 ans. Aujourd'hui, vous formez environ 300 filles par an sur 3 ans.
Oui, oui.
Quelle est l'insertion professionnelle ensuite de ces filles dans de tels métiers ?
Et nous avons un taux d'insertion globalement qui avoisine les 78%.
Ça veut dire que finalement, dans les mentalités, à un moment donné, le verrou saute.
Et oui, les mentalités sont en train de changer actuellement. Au début, on a eu de la peine pour avoir 10 filles pour démarrer la formation en mécanique pour les cycles à deux roues. Et on était obligé d'aller de faire de porte à porte pour sensibiliser les gens et avoir 10 filles. Mais malgré tout, on a commencé avec 8 filles en 1997.
Vous avez un message à faire passer aux voisines et aux voisins qui nous écoutent ?
Et actuellement, nous n'avons pas beaucoup de difficultés encore pour recruter. Donc, ça veut dire que les mentalités ont beaucoup évolué et les gens sont beaucoup plus réceptifs de voir les femmes dans les métiers autrefois réservés aux hommes.
Merci beaucoup Bernard Zongo, secrétaire exécutif du Centre féminin d'initiation et d'apprentissage aux métiers. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Il nous reste très peu de temps. Michel Perrault, en cette journée internationale des filles, qu'est-ce que vous demandez à l'heure actuelle en termes d'engagement financier aussi à la communauté internationale ?
De surtout mettre en pratique les engagements. Ils ont été nombreux ces derniers temps, notamment au niveau de la présidence française. On attend maintenant que les engagements financiers soient tenus. Et on attend également des Nations Unies qu'un rapporteur spécial puisse être nommé pour les droits des filles, de manière à leur accorder cette visibilité dont elles ont besoin pour faire entendre leur voix.
Juste une dernière question, la probable élection de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie, est-ce que ça serait une bonne nouvelle, une Rwandaise pour l'éducation des filles ?
Certainement, c'est un pays qui a des taux assez faibles de scolarisation, ce serait certainement une très bonne chose.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous Michel Perrault. Ibrahim Assori, aujourd'hui comment vous voyez votre avenir ?
Très radieux, dans quelques années. Déjà préparé aujourd'hui, j'espère que je serai un parent très responsable et serein dans le futur.
Kadiatou, un message à faire passer pour les voisines et les voisins qui nous écoutent ?
Mon message va spécifiquement à l'endroit des filles. Il faut avoir confiance en soi, savoir ce qu'on veut et on peut réussir, changer ce monde.
Et quel métier vous voulez exercer plus tard ?
Métier ? Je veux faire la science politique ou l'administration des affaires.
Ah, je pensais que vous alliez dire femme politique ?
Femme politique.
Est-ce que c'est un métier d'ailleurs ?
Pas un métier, la question.
Merci en tout cas à tous les trois. Michel Perrault, donc de Plan International. Merci à vous, Ibrahim Assori. Et merci à vous, Kadiatou, 17 ans, lycéenne. On va vous laisser retourner à vos cours à Conakry. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. On parlera des étudiants subsahariens au Maghreb. Le prix des études, les diplômes, le racisme aussi. Le Maghreb est-il une bonne destination pour les étudiants africains ? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. À demain !